Je pense que je vais commencer en renversant un peu les présentations. Alors, d'abord, peut-être juste une petite introduction. Pourquoi on en est arrivé à organiser une session jumeaux climatiques? Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a déjà des personnes qui en avaient entendu parler. Oui, non, pas trop, hein, un petit peu, pas vraiment. Alors, en fait, nous, figurez-vous que c'est grâce à la ville de Toulouse, qui est adhérente à Cités Unies France, qu'on en a entendu parler il y a à peu près 2 mois. Puisqu'on, vous savez, on est à CUV dans les réseaux de collectivités territoriales, engagés à l'international, et ils nous ont dit, tiens, mais est-ce que vous savez, on peut aussi réinventer l'AICT en travaillant sur on va dire, des jumelages climatiques, ou en tout cas des relations entre villes qui n'auraient pas le climat, même climat aujourd'hui, mais qui auraient peut-être un climat similaire l'une et l'autre demain. Donc, ce qui évidemment paraît complètement fou, parce qu'on sait très bien que la question de la variable des températures est quand même assez incertaine. Mais on s'est dit, après tout, pourquoi pas surfer sur cette notion et voir si véritablement c'est pertinent ou pas. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Alors, j'espère que vous m'entendez à distance. Ah oui, ça, c'est la vidéo de Madame Helga Stelgies de Düsseldorf qui n'a pas pu être passée en plénière. Est-ce que c'est possible de la passer maintenant? Oui. Alors, en fait, elle parle en allemand et elle est sous-titrée en anglais. Donc, j'espère que ça ira pour tout le monde. Sinon, on pourra vous la résumer juste après. Donc, oui, on peut la lancer. Je ne sais pas si les personnes en visio pourront la voir, par contre. C'est juste la question que je me pose. Donc, est-ce que le son fonctionne? Non? Donc, si le son fonctionne pas, on la passera pas. Alors, en fait, en plénière, on avait trois interventions qui introduisaient cette session, donc, trois interventions d'élus. D'abord, donc, Jean-Claude Dardelet, donc, élu à Toulouse. Également, on avait la maire du Tunis et on avait donc l'adjointe à l'environnement de Düsseldorf qui s'affichait à l'écran, mais on n'a pas pu entendre sa vidéo. On la postera sur les réseaux et également sur le mini-site. Donc, il y avait une introduction par les élus et ensuite, on est arrivé à un temps un peu plus technique aujourd'hui, ici, maintenant, avec vous. Donc, moi, ce que je vous propose déjà, c'est d'écouter, peut-être d'un point de vue plus précis, que n'a pu le faire Jean-Claude Dardelet, l'élu de Toulouse, qui, lui, était en plénière, avec donc Stéphane Becquet, qui est son directeur des relations internationales. Si jamais, entre-temps, des gens arrivent, je rebouclerai. Hein, et puis, de toute façon, la session est enregistrée, donc on pourra aussi nous retrouver d'une autre manière. Merci, vous pouvez entrer. Nous commençons avec beaucoup de retard, si vous le souhaitez. C'est les jumeaux climatiques. Pas de souci. D'accord. Donc, Stéphane Becker, je vous propose de nous redire un peu comment vous vivez ces jumelages climatiques à trois avec Tunis et Düsseldorf. Comment c'est arrivé et ce que vous pensez pouvoir en faire aujourd'hui et demain. Stéphane Becker, directeur des relations internationales à Toulouse Métropole.
Je relève le masque, ça sera plus audible. Merci Constance, bonjour à tous. Donc effectivement, on est sur ce sujet-là depuis 3 ans sur Toulouse. Alors ça s'inscrit dans un diagnostic sur le plan climat que nous avons en 2030 avec des échéances de faire baisser Toulouse à moins 40% du gaz à effet de serre, moins 20% de la consommation de l'énergie. Enfin, la consommation, pardon, du territoire et doubler les énergies renouvelables. Donc, on est en train de renouveler ce plan cette année, mais c'est quelque chose de très fort, sachant que ça a été rappelé ce matin, mais c'est important maintenant de l'ancrer en plus avec le rapport du GIEC. Là, on travaille uniquement pour l'atténuation après 2050, puisque jusqu'à 2050, on peut faire que de l'adaptation, il ne se passera rien. Tout ce qu'on fera maintenant est complètement n'aura pas d'impact avant 2050. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que comme on s'adaptait, il fallait apprendre et apprendre des autres et apprendre vite. Donc c'est vraiment une démarche apprenante entre villes. Nous, on avait déjà développé des choses au-delà des jumeaux climatiques sur les bonnes pratiques. On a 19 coopérations à travers le monde. Et on a une actualité très forte sur les bonnes pratiques. ramener de l'intelligence qui a lieu ailleurs sur des domaines d'excellence de ville pour les ramener dans sa propre ville. Et je ne dis pas de faire du copier-coller, mais de les adapter. On est toujours en train de réinventer des choses qui existent souvent. Et en plus, on favorise l'intelligence collective. Donc, faire de notre ville apprenante. Et là, on a trois exemples concrets, qui est le projet européen Live Green Earth, qui a été gagné il y a 2 ans, et qui avait pour vocation, sur le programme LIFE européen, financer la revégétalisation de l'île du Ramier, qui est une île à Toulouse, où il y avait le Parc Expo. Et ce parc expo a été complètement détruit pour revégétaliser jusqu'à 13 hectares. Donc ça, cet exemple-là, donc on travaille sur les îlots donc de fraîcheur. Et Düsseldorf, donc qui est notre partenaire et notre jumeau climatique. Donc jumeau climatique, c'est ils auront notre climat en 2050, le climat qu'on a actuellement de Toulouse. Düsseldorf aura notre climat. Alors sur le tableau que vous avez à l'écran, c'est Hambourg. Hambourg est un petit peu plus haut, mais bon, grosso modo, c'est ce qui va se passer. Donc ils apprennent en fait des îlots de fraîcheur qu'on met en place. Donc ils sont partie prenante dans le projet. Donc c'est un projet à 4,5 millions, financé à 55% par l'Union européenne. Donc on a ce projet-là qui est partagé avec Düsseldorf. Mérez en parlera plus tard sur notre coopération avec Tunis. Dans nos 4 axes de coopération, nous avons un axe adaptation aussi sur la rareté de l'eau. Donc il y a tout un travail autour de l'eau. Et nous-mêmes, Toulouse, on aura le climat de Séville et de Tunis. On dit on utilise les deux parce que c'est à peu près la même latitude, en 2050. Donc on doit aussi apprendre de Tunis et très vite de tout ce qu'on va avoir comme carence en 2050, puisqu'encore une fois, tout ce qu'on fera maintenant, si on le fait bien, on aura les résultats qu'après 2050. Donc on n'a que pour objectif de s'adapter. Et un dernier point sur les actions, j'étais hier avec la directrice générale de la culture de Séville et on s'est dit on travaille sur le climat, nos directions environnement travaillent sur les climats et on s'est dit comment mettre en musique tout ça. Et on a décidé de travailler sur la présentation culturelle de tous les travaux climatiques qu'on mettait en place, avec l'idée aussi de rameuter le monde économique. Donc on va choisir un certain nombre d'entreprises à Séville, un certain nombre d'entreprises à Toulouse qui travaillent sur le climat. Et on va essayer de faire ça de manière culturelle. Au lieu de faire un stand, une expo classique, on va le mettre en musique. Donc la culture est un bon vecteur pour faire passer les messages. Voilà, donc l'important dans le message, c'est que la mise en réseau des villes, des jumeaux climatiques est vraiment importante. Donc je ne sais pas si vous êtes dans une démarche de trouver des jumeaux climatiques, mais ça aide tout le monde. Je pense qu'il faut les ancrer. Nous, on a trouvé les deux nôtres. Et c'est vrai qu'on intensifie ça depuis 2 ans, 3 ans, à travers des projets concrets et financés, comme je viens de vous le dire. Et de toute façon, on n'a pas le choix, malheureusement, mais c'est aussi dans la solidarité et par ces types de coopération qu'on arrivera à trouver les solutions pour l'avenir.
Alors, merci beaucoup Stéphane Becquet. Donc pour les personnes qui nous ont rejoints et qui certainement étaient donc en plénière comme moi, qui ont dit attendre la fin, merci pour votre participation. Donc nous étions avec Stéphane Becquet, qui est le directeur des relations internationales de la ville de Toulouse et de Toulouse Métropole. Donc il nous parlait justement de cette expérience toulousaine avec Tunis et Düsseldorf, donc à partir d'une carte. Et on va maintenant voir avec Vincent Viguier ce qu'on peut en faire, ou peut-être pas, de cette notion jumeau climatique qu'on considère comme une réalité aujourd'hui, demain peut-être, à voir. Peut-être juste, je vais demander à Dylan, qui m'appuie pour cette animation, de peut-être de remettre le PowerPoint de départ avec les intervenants, pour qu'on puisse, que vous puissiez voir qui va s'exprimer aujourd'hui, enfin maintenant d'ailleurs. Donc on aura d'abord Vincent Viguier, ensuite Nathalie Caïmilly et M. Mérès Ribi qui sont en visio. Donc qui nous entendent, et en principe nous-mêmes nous les entendrons tout à l'heure. Donc je vous propose de passer la parole à présent donc, à Vincent Viguier, donc chercheur au CIRED, il va se présenter. Donc il va justement nous interroger sur cette notion de GIMO climatique et puis à la suite, qu'est-ce qu'on peut en faire. Merci Vincent Viguier, vous avez une présentation je crois.
Oui, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, peut-être pour me présenter, je m'appelle Vincent Viguier, je suis chercheur au CIRED, qui est un laboratoire conjoint entre l'École des Ponts, AgroParisTech, le CNRS, dans lequel on étudie tout ce qui est les questions économiques et politiques sur le climat. Et moi-même, je travaille sur les politiques des villes face aux impacts du changement climatique. Et du coup, donc, dans le cadre de cette session, je vais juste faire un petit retour sur justement qu'est-ce que c'est qu'un jumeau climatique et quels sont un peu les enjeux qu'il y a derrière, puis surtout ce que ça peut montrer des difficultés et des solutions qu'on peut avoir pour anticiper et pour s'adapter aux impacts du climat. Alors, peut-être ce que je vous propose, voilà. Hop. Alors, peut-être pour illustrer ça, le... Toc, 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 ça, je vais revenir à ça plus tard. Voilà, juste pour illustrer ce que c'est qu'une carte de jumeaux climatiques, ou le nom en anglais, c'est analogue climatique, climate analogue. Ici, vous avez une carte, donc une carte de l'Europe, sur laquelle vous avez... Bon, il y a des couleurs, mais ça, c'est pas très important. Et surtout, vous avez différentes villes qui sont représentées et qui sont pas représentées au bon endroit. Et donc, bien sûr, l'idée sur cette carte, c'est que les villes sont représentées à l'endroit où le climat actuel correspond le plus au climat futur qui est anticipé. Donc là, en l'occurrence, c'est pour un scénario climatique tendanciel et pour les années 2070. Et vous voyez, par exemple, alors, il n'y a pas toutes les villes européennes, mais si on prend Paris et Marseille, on arrive à peu près au niveau du sud de l'Espagne. C'est-à-dire que le climat qui est actuellement, disons, aux alentours de Séville, est une bonne représentation du climat futur auquel on peut s'attendre pour Paris. Alors, disons que ces cartes d'analogue, c'est des choses qui sont très très pratiques pour expliquer ce que c'est que le changement climatique, expliquer ce que ça veut dire, un réchauffement de quelques degrés, et en quoi ça change vraiment les choses dans la vie quotidienne. Après, je vais juste, pendant quelques minutes, vous montrer un peu ce qu'il y a derrière, tout simplement pour vous expliquer un peu toutes les difficultés que ça peut poser, parce qu'en fait, si vous voulez, ces analogues, c'est des choses qui avaient été faites beaucoup il y a une dizaine d'années. C'est un très bon outil de communication et un très bon outil pour nouer des partenariats et travailler. Après, disons, un point qui est important, c'est qu'il ne faut pas du tout, par contre, les prendre comme argent comptant, parce que, par exemple, le climat futur de Paris n'est pas pile celui de Séville. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, juste vous montrer deux, trois éléments là-dessus pour voilà, avoir un petit peu de recul, puis après, je vais revenir sur, par contre, ce que ça peut nous apprendre. Déjà, la toute première chose, alors ça c'est une carte qui a été montrée juste avant, c'est qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un des gros problèmes avec le changement climatique, c'est pas que le climat change d'un coup, et que d'un seul coup le climat va être différent, c'est que c'est un processus qui est continu. Et d'ailleurs, vous savez peut-être que le changement climatique, c'est un processus qui est très long. C'est-à-dire que même si dès aujourd'hui, on arrêtait brusquement d'émettre tout gaz à effet de serre, ce qui bien sûr est complètement théorique, mais même si on arrivait à faire ça, bah, les conséquences de tout ce qu'on a émis dans le passé continueraient à se faire sentir pendant des siècles, voire des millénaires. Donc, juste tout ça pour dire que le climat, c'est quelque chose qui est lancé et qui évolue de manière continue. Et de la même manière, en fait, le climat, par exemple, qu'on peut avoir à Paris, bah, va évoluer chaque année. Et d'ailleurs, ça va en s'accélérant. C'est-à-dire que, par exemple, depuis 10 ans, vous savez que le climat a déjà changé, hein, qu'il y a de plus en plus de canicules, etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la différence qu'il y a entre le climat qu'il y a aujourd'hui et celui qu'il y avait il y a 10 ans, bah, est plus petite que la différence qu'il va y avoir entre le climat dans 10 ans et le climat d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, on expérimente plus de canicules, de sécheresses, etc., suivant là où on est. Dans 10 ans, il y aura encore plus de différences par rapport à aujourd'hui que le changement qu'on a déjà observé. De la même manière, lorsqu'on regarde comme ça un analogue, bah, suivant l'année à laquelle on se place, bah, bien sûr, l'analogue est différent. Ici, sur cette carte, vous avez par exemple les trajectoires. Alors, les points P1, P2, etc., c'est différentes années, c'est 2030, 2050, 2070, etc. Et vous voyez que, par exemple, si je prends Berlin, voilà, au P5, c'est la fin du siècle. À la fin du siècle, on arrive dans le sud de l'Espagne, mais entre les deux, entre aujourd'hui et la fin du siècle, bah bien sûr, c'est tous les climats intermédiaires qui ont été parcourus. Et si vous voulez, un des gros problèmes avec le changement, une des grosses difficultés plutôt, avec le réchauffement climatique, c'est que si on prend par exemple la question des canicules, construire un bâtiment qui est adapté au climat actuel de Paris, c'est quelque chose qu'on sait faire. Construire un bâtiment qui est adapté au climat futur de Paris, par exemple au climat de Séville, c'est quelque chose qu'on sait faire aussi, on construit des bâtiments à Séville depuis longtemps. Par contre, construire un bâtiment qui aujourd'hui est adapté au climat de Paris et qui va être adapté à tous les climats intermédiaires, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Et donc, il faut bien penser que lorsqu'on parle d'un analogue climatique, c'est une trajectoire en fait. C'est juste à un instant donné, mais que toute la difficulté, c'est de faire des choses qui soient suffisamment flexibles pour être adaptées au climat d'aujourd'hui, au climat de l'analogue et à tout ce qu'il peut y avoir entre les deux. Bon, l'autre point aussi, bien sûr, quand je parle d'analogue, c'est que vous savez sûrement qu'un des gros enjeux de changement climatique, c'est que ça impacte énormément de choses à la fois. Ça impacte les températures, ça impacte les vents, ça impacte les pluies, ça impacte les risques de sécheresse, ça impacte les risques de maladies, enfin énormément d'impacts très différents, et qu'un des gros enjeux avec le climat, c'est d'ailleurs la superposition de ces impacts. Si vous voulez, autant on sait par exemple comment lutter contre une canicule, on a des choses, mais voilà, savoir comment s'adapter à une canicule dans le contexte d'une ville qui a subi une sécheresse, dans le contexte d'une ville dans laquelle il y a eu une arrivée massive de migrants climatiques, et dans laquelle la plupart des arbres sont morts du fait de l'arrivée d'insectes, par exemple, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Donc si vous voulez, un des gros enjeux du climat, et beaucoup de recherches à l'heure actuelle portent là-dessus, c'est de comprendre comment les impacts comme ça se superposent. Et de la même manière, lorsque l'on calcule quel est le jumeau climatique d'une ville, la première question qui se pose, c'est « Ok, mais quelles variables est-ce qu'on prend ? Est-ce qu'on prend les pluies, les températures, les vents ?» ce qui est projeté pour la biodiversité, etc. Et bien sûr, suivant le choix de variables qu'on fait, ça amène à des résultats très différents. C'est pour ça que je vous disais que voilà, ce choix de jumeaux, c'est une très bonne manière de communiquer. Par contre, il faut toujours le prendre avec des pincettes. Juste pour illustrer ça, là, vous avez une représentation, ça c'est une étude qui avait été faite aux États-Unis, qui représentait les jumeaux climatiques, enfin les analogues climatiques d'un certain nombre de villes américaines. Et vous voyez, en fait, pour calculer ça, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule des cartes de similarité. Et en général, les cartes, ça ressemble à ça. Ça fait une espèce d'énorme zone avec un score. Et puis, on prend l'endroit où le score, en l'occurrence, là, est le plus faible. On minimise les écarts. Mais vous voyez qu'en fait, ça détermine des zones assez grandes. Et bon, là, c'est les États-Unis. Donc, en fait, la zone qui est représentée ici, c'est quasiment aussi grand que l'Europe de l'Ouest, avec des climats très différents. Et voilà, ça amène à des... Il y a toujours beaucoup d'incertitudes là-dessus. Voilà, par exemple, hein, c'était issu de la même étude... vous voyez que différents analogues qui ont à peu près le même score, voilà, qui marchent aussi bien pour ces différentes villes, si je reprends l'exemple de Washington, ça amène à un certain nombre de villes qui sont assez différentes les unes des autres. Donc voilà, c'est juste un truc indicatif, mais par contre, ça parle quand même, parce que le climat de chacune de ces villes ici est très différent du climat de Washington actuel. Un autre point aussi, c'est que un des risques, mais voilà, c'est juste un risque, hein, bien sûr, il ne faut juste pas tomber dedans, avec les analogues, c'est de croire que le climat futur que le climat futur de Paris correspondra au climat qui est actuellement à Séville. Donc je vous ai dit, le climat se rapproche, une bonne représentation. Par contre, ce sera quand même quelque chose de très différent. De très différent parce que, encore une fois, peut-être que les températures et les précipitations seront proches, mais beaucoup de choses, mis à part ça, sont différentes. Et en fait, il y a beaucoup d'endroits dans le monde dans lesquels, même en prenant des variables de base, on n'arrive pas à trouver d'analogue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde dans lesquels on sait que le climat futur juste sera au-delà de tout ce qui est observé à l'heure actuelle. C'est ce que vous pouvez voir, par exemple, sur cette carte ici. Donc ça, c'est une autre étude qui regarde des choses assez similaires. Et en fait, donc chaque étude a une méthodologie un peu différente, donc amène à des résultats légèrement différents. Mais ici, toutes les villes qui sont représentées en rouge sont les villes pour lesquelles, avec leur méthodologie, ils n'ont pas réussi à trouver d'analogue. C'est-à-dire les villes pour lesquelles, alors là je pense que ça doit être pour, je sais plus, ça doit être 2070 aussi. En 2070, a priori, ces villes seront au-delà de tous les climats connus aujourd'hui. Alors ça touche surtout les villes qui sont près des tropiques et aussi les villes sur la côte est américaine. Donc encore une fois, hein, tout dépend de la méthode, etc. A priori, avec les méthodes de cette étude, en France, on reste dans le cadre de climats connus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que justement une des difficultés avec le climat, c'est que dans beaucoup d'endroits, on se dirige vers de l'inconnu. et que c'est pas impossible, mais voilà, ça soulève de gros challenges. Après, dernier point pour finir là-dessus, l'autre chose aussi, c'est que une des difficultés de l'adaptation, donc je vous ai dit, c'est le fait que le climat évolue continuellement. L'autre point aussi, c'est qu'en fait, on ne maîtrise pas complètement à quoi va ressembler le climat futur. On ne maîtrise pas complètement à quoi va ressembler le climat futur, simplement parce qu'on ne sait pas exactement combien de gaz à effet de serre on va émettre, et parce que même pour un scénario d'émission de gaz à effet de serre, on a toujours pas mal d'incertitudes sur le fonctionnement du climat. On améliore les connaissances petit à petit, mais voilà, il reste toujours, le climat c'est un phénomène qui est très complexe, il y a toujours pas mal d'incertitudes là-dessus. Et en fait, ça a des conséquences assez importantes. Par exemple, ici, c'est la carte que je vous montrais tout à l'heure. Ça, c'est pour un modèle climatique, le modèle du Hadley Center, qui est le modèle anglais. Hop. La carte ici, c'est la carte exactement similaire, mais cette fois-ci avec le modèle climatique de Météo France. Donc vous voyez que Paris, par exemple, se retrouve plutôt au niveau de Bordeaux. Et en fait, le problème, c'est que tant le modèle anglais que le modèle de Météo France sont des très bons modèles climatiques, et c'est impossible aujourd'hui de dire si l'un va être plus réaliste que l'autre. Et des modèles climatiques, il y en a plus d'une dizaine. Donc si vous voulez, ça fait beaucoup de cartes. Alors, bien sûr, hein, comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Le message, c'est pas de dire, bon, bah, il faut jeter tout ça, c'est inutile. C'est simplement de dire, voilà, c'est une approche qui amène des connaissances. Et il faut être bien conscient, qu'il y a des incertitudes dans les connaissances, mais c'est des choses qu'on peut gérer. Le fait d'avoir des incertitudes dans les scénarios futurs, c'est quelque chose qui est très courant. Hein. Dès qu'on construit des infrastructures pour le long terme, bah forcément, on doit prendre en compte des incertitudes. On ne sait pas quel va être le développement économique futur, on ne sait pas quelle va être la démographie future des villes. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on sait faire. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que de la même manière, savoir quel est le climat futur, c'est pas quelque chose qui est complètement clair, et que du coup, par exemple, suivant le type d'impact qu'on va regarder, il faut prendre des marges de manœuvre, des marges de sécurité, et que si on s'intéresse par exemple à la question des canicules, bah peut-être que ça vaut le coup de se baser sur le fait que le climat de Paris va ressembler au climat de Séville. Si on s'intéresse par contre aux inondations ou aux pluies, peut-être que ça vaut le coup de prendre le scénario dans lequel le climat de Paris ne sera pas le climat de Séville, mais le climat d'une ville dans laquelle il va plus pleuvoir, etc., etc. Donc juste pour bien insister sur les dangers de cette expertise. Petit message juste pour finir. Je vais m'arrêter là-dessus. C'est que dernier petit point, hein, c'est que très souvent, lorsqu'on parle des impacts du climat, on pense à des impacts comme les canicules, les inondations, etc. Mais il faut toujours bien garder en tête qu'il y a vraiment deux grands types d'impacts que le changement climatique va engendrer et qui sont de nature très différente. Et qu'il faut toujours anticiper les deux et qu'il est très compliqué de savoir lesquels parmi ces deux impacts vont avoir le plus de conséquences sur la vie de tous les jours. Le premier impact, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est les impacts directs. C'est ceux qu'on peut étudier comme ça à travers des cartes d'analogue ou de jumeaux. Le deuxième type d'impact, c'est des choses qui sont assez différentes. Sont les impacts qui peuvent nous toucher via ce qui se produit plus loin dans le monde. Ce sont les impacts indirects. C'est les risques de guerre, les risques de migration, les risques de déstabilisation de l'approvisionnement en matières premières ou en nourriture, les impacts qui peuvent se produire via l'érosion de la biodiversité, etc. etc. Et que bien sûr, ces types d'impacts-là sont très difficiles à anticiper et sont très décorrélés comme ça de ces questions climatiques locales. Mais que voilà, il faut bien sûr bien les anticiper et que même si ici je n'ai parlé que des impacts directs, ce n'est qu'une moitié de l'équation. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire là-dessus en quelques minutes. Je ne sais pas si les autres intervenants sont prêts.
Merci beaucoup Vincent Viguier pour ces éclairages. C'est vrai que c'est pas simple hein, le climat. On en voit les effets, c'est facile de les commenter, mais alors comprendre comment tout ça, quelle mécanique, et là c'est pas simple. Alors on avait prévu là tout de suite un temps d'échange, mais on va plutôt vous proposer, puisqu'on était sur un trio climatique, ensuite une mise en perspective, des questions critiques par rapport à ces éléments-là, des questions d'analyse, je vous propose d'élargir le champ. et d'aller vers le bassin méditerranéen et une vision de l'évolution climatique du bassin méditerranéen, non pas parce qu'on aime la Méditerranée, ça on le sait, mais tout simplement parce que ça permet aussi d'avoir un autre regard sur cette évolution et la manière et de ce qu'on peut en faire. Donc je propose à Mérès Ribi donc de prendre la parole et de se présenter, donc directeur du Centre d'études spatiales de la biosphère et en même temps directeur de recherche au CNRS pour nous expliquer un peu tout ça. Et malheureusement, je vous prie de m'en excuser encore plus rapidement que ce qu'on avait dit qu'on ferait pour pouvoir malgré tout permettre aux personnes dans la salle de bien comprendre la démarche et puis aussi après à Nathalie Caïmi de pouvoir s'exprimer deux minutes et puis peut-être effectivement à Zora ensuite de nous faire une petite conclusion peut-être à la fin en tant que nouvelle doctorante sur le sujet du climat. Merci Mérès Ribi, vous avez la parole. Normalement, votre PowerPoint doit pouvoir passer. Je crois que c'est vous qui le passez vous-même. Hein.
Très bien, voilà. Merci. Voilà, bonjour, voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà, c'est un grand plaisir et honneur d'être voilà, avec vous pour discuter de ce point et ce sujet vraiment d'actualité, très, très important, qui touche voilà, nos sociétés de manière très, très forte. Voilà, mon collègue a fait une excellente introduction, donc voilà, je pense que ça va m'aider beaucoup à avancer sur le sujet. Donc l'idée, c'est vraiment de vous parler un peu de ce contexte climatique, notamment pour la Méditerranée et particulièrement pour notre contexte de collaboration entre Toulouse et Tunis. Donc voilà, je me présente rapidement. Merci, voilà, l'introduction est faite. Je suis directeur du Centre d'études spatiales de la biosphère. Rapidement, je fais une brève introduction de ce que c'est ce centre. Donc, c'est un centre spécialiste de l'étude du fonctionnement des surfaces continentales dans le contexte des changements climatiques et anthropiques, c'est-à-dire voilà, liés à l'action de l'homme, avec un usage important de l'observation spatiale. C'est vraiment une des spécialités phares de Toulouse, de l'Université de Toulouse. Et donc, c'est vraiment un outil essentiel dans nos travaux pour répondre à cette problématique. Donc, on travaille beaucoup sur les cycles de l'eau et le cycle de carbone. Donc, on a des activités, des collaborations avec nos partenaires, notamment en Méditerranée, et plus particulièrement, évidemment, avec la Tunisie et plus, on va dire, avec les universités, évidemment, de Tunis, notamment l'Université de Carthage et l'Université de Tunis El Manar, plus d'autres collaborations avec les zones tropicales. Donc, le contexte des ressources en eau et l'évolution dans ce changement en lien avec les changements climatiques, c'est vraiment le cœur de ces activités en partenariat avec nos collègues dans les autres pays cités. Voilà, si je reviens à la Méditerranée, évidemment, donc on est vraiment dans un contexte de changement climatique très, très marqué. C'est vraiment, on le considère comme un hotspot du changement climatique. Ça veut dire que c'est vraiment une zone pour laquelle il va y avoir, et c'est déjà un peu, on va dire, en cours, une évolution liée au changement climatique qui est très importante, avec des évolutions de température très marquées, évidemment une évolution dans les processus liés aux précipitations. Donc ça, c'est un peu le processus, je dirais, continu d'évolution. Mais il y a également tout ce qui concerne les événements extrêmes qui ont un effet de rupture et de risque très, très important. Et lorsqu'on parle de contexte, on va dire, des événements extrêmes, notamment les sécheresses, qui font partie déjà du climat méditerranéen, mais on voit clairement une forte accélération de ces événements qui ont des effets très, très néfastes sur l'économie des différents pays autour du bassin méditerranéen. Évidemment, on a vécu des sécheresses ces dernières années. En Tunisie, nombreuses sécheresses avec forte répétitivité depuis quelques années. Et puis, le deuxième aspect, c'est vraiment les inondations qui ont aussi un effet très important avec toute cette augmentation de température dans les saisons chaudes à l'été. Ça génère derrière des événements qui sont de nature vraiment extrême. Et c'est pareil, on voit de plus en plus sortes de moussons, on va dire, méditerranéennes qui arrivent dès septembre, voire parfois un peu avant, avec des effets catastrophiques sur les grandes villes. Je peux citer évidemment Tunis, plusieurs d'autres cités qui subissent ces inondations qui ont évidemment des effets humains et économiques très importants. Donc, on a parlé de problématiques liées aux ressources en eau. Évidemment, voilà, il y a un contexte de rareté des ressources déjà présentes en Méditerranée. Donc, on a vraiment certains pays comme la Tunisie qui fait partie des pays où il y a les ressources les plus faibles par habitant et par an au monde. Et voilà, malheureusement, le contexte risque de s'aggraver. Et donc, on a un contexte méditerranéen où voilà, la question de la rareté de l'eau et comment travailler sur les atténuations pour protéger les ressources existantes et puis l'adaptation qui fait partie vraiment d'un sujet essentiel pour les scientifiques. Je rappelle que ces ressources en eau sont principalement consommées par l'agriculture, hein, qui s'intensifie de plus en plus, vu les besoins aussi de sécurité alimentaire et les besoins liés à la démographie. Donc, on est sur 70-80% de consommation d'eau qui part vers l'agriculture. Et avec cette, on va dire, tension sur les ressources, ça génère également une tension sociale, y compris, surtout sur les saisons sèches, comme l'été, où on a vu même des tensions, on va dire, liées à la présence d'eau domestique dans plusieurs pays. Donc voilà, c'est un sujet très, très important. Donc ce contexte, on a parlé de jumeaux climatiques, qui est vraiment un contexte qu'on voit, même de manière plus diffuse, sur l'évolution des ressources en eau. Si on voit en fait cette illustration du classement, de classification des bassins méditerranéens, du nord, on va dire des deux rives nord et sud de la Méditerranée, ce qu'on voit avec sur les 50 prochaines années, une évolution qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire ce sens d'évolution de la rive droite, la rive nord vers un contexte plutôt semi-aride, qui est proche de ce qu'on pourrait voir effectivement en Espagne, voire en Afrique du Nord. Et on a un contexte du sud de la Méditerranée, notamment sur la Tunisie, avec clairement un contexte encore plus aride qui s'approche des pays les plus arides qu'on peut retrouver aussi dans des régions plutôt subsahariennes. Donc c'est un contexte notamment voilà, identifié par une saisonnalité beaucoup plus forte en termes des précipitations, c'est-à-dire en termes des pluies, et évidemment un été beaucoup plus chaud. Et derrière, évidemment, il y a des conséquences, notamment à l'accélération de phénomènes extrêmes comme les sécheresses et les inondations. Voilà, donc ce contexte-là, on le voit avec ces illustrations de canicules de plus en plus observées durant la saison chaude de l'été, évidemment sur les deux rives, mais surtout au nord, où on n'a pas vraiment trop l'habitude d'avoir des températures aussi extrêmes, et évidemment ces inondations aussi qu'on voit de manière très fréquente dans les grandes villes, et notamment sur la ville de Tunis. Donc, face à ce contexte-là, je pense que ça a été clairement dit dans la présentation qui a été faite juste par mon collègue avant. Il y a un contexte, évidemment, d'activité scientifique très, très riche. Si je prends l'exemple de la Méditerranée, il y avait un programme qui s'appelle Mistral qui a mobilisé la communauté scientifique pendant plus qu'une dizaine d'années. Et on revient à des aspects très clés pour avancer sur ce sujet. Le premier, je pense, c'est plus d'observation. C'est vraiment essentiel. On a, sur le spatial, on a le programme Copernicus, qui est un programme européen qui a été très, très bénéfique. Et je pense qu'il va continuer dans les prochaines années d'apporter des réponses très importantes pour le suivi des variables climatiques en zone urbaine, mais également sur les territoires. Donc, c'est vraiment essentiel. Différents paramètres, la sécheresse, la végétation, le contenu en eau, les réservoirs d'eau, etc. Donc ça, c'est important. Il y a aussi des observatoires pour permettre de suivre sur le terrain différents paramètres. Ces observatoires qui s'installent autour de plusieurs pays, on a un observatoire en collaboration avec nos partenaires en Tunisie, on a aussi notre observatoire ici, proche de Toulouse, on a des collaborations en Espagne, etc. C'est essentiel pour suivre et avoir ce suivi des paramètres essentiels, que ce soit sur des zones agricoles, de montagne et bien sûr en zone urbaine. Cet aspect-là, il existe déjà à travers des réseaux scientifiques, mais là, je pense qu'il y a un besoin de fluidifier, je dirais, l'échange de données entre gestionnaires des villes, entre gestionnaires des zones de territoire et les scientifiques. Parce que c'est vraiment cet échange permet de constituer une base essentielle pour comprendre ce qui va se passer et comment travailler sur l'adaptation. Et on parle de jumeaux climatiques, je pense qu'une des clés aussi, c'est cette observation qui nous permet vraiment de comprendre ce qui se passe entre différentes villes. Le deuxième point, c'est cet aspect intégré pluridisciplinaire, multidisciplinaire. On sait bien que ce contexte est très compliqué. On a un contexte, on a parlé de changement climatique, mais il y a aussi ce qu'on appelle les changements anthropiques. Donc, on a un contexte de changements globaux. Parfois, dans certaines villes et dans certains territoires, l'effet anthropique, l'effet humain, il peut être plus important que l'effet climatique. Et dans vraiment pas mal de villes, on le voit, surtout si on est vraiment dans une évolution très rapide, démographique, d'urbanisation, etc. Et toute étude climatique ne peut pas se faire sans prendre en compte cet aspect-là. C'est vraiment, sinon, on passe à côté d'une réalité pour trouver une solution. Et aussi, on a un contexte où on ne va pas avoir des spécialistes du climat qui vont aborder le sujet tout seul ou des spécialistes de l'eau, etc. C'est vraiment une combinaison de compétences pour répondre à ces problèmes, et y compris en mettant dans la boucle les gestionnaires, les décideurs, etc. Donc, évidemment, le troisième point, c'est un travail, je pense qu'il faut sans tarder sur plein de choses. Il y a déjà des choses qui se font. Hein. Travailler sur les atténuations, comment mieux gérer les ressources, notamment les ressources en eau, mais aussi les autres ressources essentielles, les ressources en sol, en végétation, etc. Et aussi préparer les adaptations. Parce que plus on tarde sur la préparation des adaptations, plus la vulnérabilité augmente, les risques augmentent, et évidemment les effets sur l'humain et sur l'économie pourraient être beaucoup plus importants. Donc c'est vraiment, je pense, un défi qui peut être fait dans un contexte d'un réseau de villes pour travailler sur des adaptations les plus optimisées en lien avec cette logique de jumeaux climatiques, mais dans un contexte, je dirais, plus large, qui peut dépasser ce contexte de vision, on va dire, de ce qui va se passer, correspond à ce qui se passe pour moi actuellement. Donc ça, c'est le troisième. Et le dernier point, ce qu'on appelle les sciences participatives, qui s'adaptent très, très bien avec cette question climatique. Lorsqu'on parle de sciences participatives, ça veut dire que, de manière simple, les scientifiques ne vont pas traiter le problème dans leur bureau sans prendre en compte, sans faire participer, on va dire, des acteurs hors de la science, des acteurs qui peuvent être des gestionnaires, des décideurs des villes, de la société civile, bien sûr, l'implication des associations, qui apportent des réponses et, on va dire, des contributions qui sont essentielles dans cette logique de la recherche très appliquée qui a pour objectif d'aller le plus rapidement possible vers des solutions. Voilà, donc c'est vraiment tous ces aspects-là nécessitent d'être le plus optimisé possible pour avancer dans une logique vraiment d'arriver à des solutions qui répondent à la question scientifique, mais aussi surtout à la question sociétale. Voilà, merci pour votre attention.
Alors, merci beaucoup, Mérès Rébi. Je ne sais pas si vous entendez les applaudissements. Entre-temps, donc, plusieurs personnes, vraiment, on est peut-être une trentaine, sont arrivées dans la salle, malgré les retards. Et évidemment, je m'en excuse encore au nom de l'organisation. Donc, on voit bien qu'on est parti, effectivement, en notant avec Stéphane Becquet, donc, directeur des relations internationales, donc, de Toulouse Métropole, sur cette importance pour les élus, les services, de prendre en compte et d'écouter les signes, on va dire, du temps. Et en même temps, de prendre en compte les différents acteurs qui peuvent aider les collectivités à mettre en place des politiques publiques d'adaptation, en tout cas à voir comment s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour pouvoir avancer soi-même. Ce n'est pas simple. Donc merci encore à Stéphane Becquet pour cela. On a bien vu avec Vincent Viguier comment il fallait bien évidemment prendre tout cela, non pas pour argent comptant, puisque le climat, c'est quelque chose qui n'est pas une donnée fixe, mais malgré tout, comment on pouvait s'en inspirer et voir comment aller chercher des ressources scientifiques, des ressources d'experts pour pouvoir mieux comprendre tout cela. Et vous, monsieur Mérès Rébi, bien sûr, directeur donc du Centre d'études spatiales de la biosphère et directeur de recherche au CNRS, vous avez pu effectivement, sur l'exemple du bassin méditerranéen, dont on a vu comment au nord de ce bassin, qui est à peu près le sud de l'Europe, et le nord de ce bassin méditerranéen qui correspond au nord du continent africain, entre autres, comment justement, là aussi, en ayant une approche multi-acteurs, on peut davantage trouver des solutions d'adaptation qui soient viables ou en tout cas qui ne soient pas qui soient pérennes. Alors peut-être on a beaucoup parlé justement de ces interactions, de ces approches, on va dire intégrées ou multi-acteurs. Moi je propose, et alors peut-être pour vous rassurer, pour ceux qui auraient faim, c'est mon cas, le déjeuner, le lancement du déjeuner est décalé de quelques minutes en fait, donc vous pourrez le rejoindre à 13h. Vous serez libérés avant 13h, rassurez-vous, on aura l'occasion tout l'après-midi de pouvoir continuer à discuter. Donc, vous pouvez rester en salle, bien sûr. Alors, je vous propose en fait de terminer avec Nathalie, enfin de terminer les présentations avec Nathalie Caimilly, qui justement représente un réseau régional en région de Nouvelle-Aquitaine, qui justement a pris ce parti. Il n'y a pas que celui-ci en France, si j'ai bien compris, a pris le parti d'associer plusieurs types d'acteurs, y compris les collectivités territoriales, justement pour aller vers des solutions, en tout cas mêler la recherche, les collectivités. Donc je vous propose, Madame Nathalie Caimilly, bien évidemment très très rapidement, et j'en suis désolée, mais les ressources, les PowerPoints seront mis à disposition des participants, de nous dire un peu à quoi ça sert finalement de se mettre ensemble comme ça au niveau territorial et pas seulement au niveau macro où on a des personnes connues internationalement ou des labos de recherche qui sont connus, mais au niveau local, ça se passe comment ? Merci à vous, Nathalie Caimilly.
Merci, Constance. Vous voyez bien ma présentation ? C'est bon ? Oui ?
Oui, on la voit bien.
D'accord, pardon, je n'étais pas sûre.
Merci
beaucoup pour l'invitation.
Merci.
Donc, effectivement... Donc moi je travaille à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, et je suis membre du réseau FuturAct, qui est un réseau de recherche récent sur l'anticipation du changement climatique dans les territoires. Donc par rapport à la problématique que vous avez exposée avant, l'idée c'est de voir dans quelle mesure la structuration du réseau peut répondre, accompagner les démarches d'anticipation ou d'adaptation. Donc, bon, le contexte, je pense que je vais passer rapidement dessus, vu que le temps est compté. Enfin, les constats sont là, il y a plusieurs rapports qui sont sortis, donc avec des modifications très rapides qui sont constatées, non seulement de l'environnement, mais des milieux de vie. Des rapports de l'OMS, du CEDD sur l'environnement dans lequel vivent les individus qui déterminent les facteurs qui affectent leur santé et plus largement leur bien-être. À cela s'ajoute le quatrième plan santé. Et dans le cadre de la Nouvelle-Aquitaine, il y a eu des initiatives régionales qui ont été entreprises, donc des comités scientifiques Acclimatera sur le changement climatique, Ecobios sur la biodiversité, la région Nouvelle-Aquitaine qui a mis en place une feuille de route dédiée à la transition énergétique et écologique, Néoterra, et une mise en place récente de réseaux régionaux de recherche, dont ceux liés à l'environnement. Donc, si je reviens juste rapidement sur Acclimatera, c'est un conseil scientifique sur le changement climatique. Et depuis 2011, Acclimatera a permis de faire une synthèse des connaissances à l'échelle régionale, que ce soit par milieu, par filière, sur différentes problématiques. Et ce constat a mis en évidence des manques spécifiques en matière de connaissances. Alors, ça peut être des manques d'indicateurs, des manques d'observatoires, de collecte de données, comme disait la personne précédemment, et aussi des perspectives transverses, le manque d'avoir des approches intégrées des effets du changement climatique, par exemple sur les espèces, souvent il y a l'impact va concerner l'augmentation de la température sur la reproduction d'une espèce biologique, mais pas sur la reproduction et sur la croissance, et voilà, c'est l'aspect intégrateur qui manque souvent. En croisant ces apports de synthèse, en parallèle, on a eu, par rapport à la communauté Acclimatera, une dynamique d'interpellation d'acteurs du territoire qui sont en demande de systèmes qui couplent à la fois des enjeux sociétaux et environnementaux, des défis innovants également. On voit que ce soit les collectivités, les acteurs sont partants pour tester des différentes solutions, que ce soit avec des expérimentations à l'échelle des territoires, et aussi un dispositif d'outils à développer avec des indicateurs co-construits. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est passé du constat qui était surtout, et de la médiation qui est surtout l'activité d'Acclimatera, le conseil scientifique, à la mise en place d'un réseau recherche FuturAct qui a été créé en 2020. Et donc c'est un R3, donc un réseau recherche environnement qui est aux côtés de Biosénat, donc sur la biodiversité, sur les risques côtiers, sur l'eau, sur la forêt. Donc actuellement, les partenaires qui se sont structurés dans ce réseau, donc j'allais très vite, il y a 45 laboratoires, donc on a à peu près 250 chercheurs qui ont fait part de leur intérêt pour la démarche. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire, différents objets d'études, d'approches, donc on a des sociologues, des géographes, des biologistes, des spécialistes milieu physique. Voilà, on a vraiment une palette de compétences. Et en parallèle, on a des partenaires sociétés qui ont marqué leur intérêt, donc à peu près 40 actuellement, autour de sollicitations, recherches, webinaires ou de groupes actions. Donc la région Nouvelle-Aquitaine, évidemment, l'ADREAL, des associations, l'Agence de l'eau, et j'en passe. Donc l'idée, c'est vraiment de construire, de s'appuyer sur ce consortium pour aller vers des questionnements interdisciplinaires qu'on construit Sciences-Société. Alors bon, là, je vais aller très très vite, c'est la structuration actuelle du réseau, donc je pense que, vu le temps dédié, ce n'est pas la peine, je vais juste aller sur les groupes actions et sur les groupes projets pour expliquer comment on travaille.
Oui, effectivement, donc, en quelques secondes, j'en suis désolée. Merci beaucoup.
Donc on a des groupes actions qui se sont structurés pour fédérer, pour mettre du lien, enfin faire du lien entre la science et la société, donc avec une dynamique continue, pour acquérir une culture commune, parce que c'est important dans la mise en place de ces réseaux, d'émergence d'enjeux scientifiques qu'on construit, avec des questionnements qu'on construit. Donc notre cadre temporel, c'est vraiment, si je reprends à l'intervention de M. Viguier, c'est d'aller sur des trajectoires, ne pas être que dans l'ajustement, et d'aller sur des trajectoires, des projections avec les incertitudes associées. Le cadre spatial, c'est la Nouvelle-Aquitaine, mais évidemment avec des comparaisons au-delà. Donc là, ça fait le joint avec les îles jumelles. Et le cadre programmatique, c'est un ancrage en société. Bon, quelques actions, bon, c'est des actions qui sont déjà lancées, donc je passe pour montrer que ça, l'activité du réseau a démarré. Et dans ce contexte, ça sera ma dernière diapo. C'est vraiment l'idée de faire un partage de points de vue pluraliste, des dynamiques inclusives, recherche, acteurs, société, pour des dispositifs de concertation originaux. Donc c'est un dispositif qui peut être mobilisé pour explorer des projets, notamment ceux sur la ville, les villes jumelles. C'est une coopération scientifique et acteurs du territoire. Certaines existent avec l'existence pour certaines déjà fortes, et d'autres qui sont à créer avec une dimension locale et internationale. Donc là, c'est vraiment un premier contact aujourd'hui. Le réseau est en place. Il peut être un interlocuteur. Il ne faut pas hésiter à le mobiliser pour tout intérêt. Et puis, aux intervenants précédents, je notais changements globaux, complètement d'accord. Sinon, on passe à côté de solutions réalistes, je ne peux qu'adhérer. Et après, sur les villes jumelles, pour certains, les intérêts et la prise en compte des limites a été présentée par M. Viguier. Pour certaines activités, ça présente effectivement un intérêt quand elles sont in situ dans la ville. Pour d'autres, je pense par exemple aux villes qui sont des villes portuaires, les villes qui ont la pêche. Le concept de ville jumelle n'est pas suffisant non plus pour se projeter sur l'avenir, puisque par exemple, les pêcheurs s'adaptent et ont des ressources qui dépassent largement l'échelle, la dimension des villes. Mais très, très vite. Merci pour votre attention.
En tout cas, merci beaucoup, Nathalie Camille, parce qu'en plus, on vous applaudit là aussi, parce que vous avez en plus synthétisé ce que les autres ont dit précédemment. Donc, c'est parfait. Peut-être juste, je me tourne vers Stéphane Becquet, donc puis également, je salue la présence de Jean-Claude Dardelet, adjoint au maire de Toulouse, qui était présent donc en plénière pour introduire cette session. Et peut-être, justement, Stéphane Becquet ou Jean-Claude Dardelet, vous avez écouté effectivement ces différentes analyses, ces différents regards sur cette notion de jumeaux climatiques. Est-ce que il y a des choses auxquelles vous aviez peut-être pensé ou pas? Est-ce que ça peut vous permettre, avec Tunis et Düsseldorf, justement, de réfléchir peut-être un peu autrement ou d'affiner éventuellement? Ou au contraire, ça vous a conforté dans cet intérêt qu'on peut avoir de mettre en place, ou en tout cas de réfléchir et de regarder ce qui se passe dans des villes qui peut-être auraient le climat que nous avons aujourd'hui? Est-ce que vous voulez peut-être réagir par rapport à ça? Stéphane Becquet, directeur des relations internationales Toulouse Métropole, évidemment en quelques secondes, hélas. Et ensuite, je demanderai peut-être à M. Zribi de reprojeter sa carte du monde avec le rouge et le jaune, où on voit l'avancée de l'aridité. Ça permettra aux personnes dans la salle de s'exprimer et à M. Viguier aussi de réagir. Stéphane Becquet ?
Oui, je reprendrai juste les propos que j'ai pris en introduction. C'est une démarche apprenante. Et on est plus intelligent à plusieurs. Et si on trouve quand même son jumeau climatique, ça permet quand même d'anticiper. On est quand même dans l'anticipation. Et on travaille encore une fois pour l'atténuation après 2050 et l'adaptation avant 2050. Et sur ces deux axes stratégiques, il faut bien trouver des solutions. Et comme nous, on n'a pas ce climat, ces conditions, on ne les connaît pas. On va les chercher ailleurs. Et on apprend plus vite les uns des autres. C'est vraiment la coopération internationale au service des bonnes pratiques et de l'intelligence collective.
Merci beaucoup Stéphane Becker. Peut-être pendant que Mérez Ribi, s'il peut reprojeter sa carte du monde que j'ai personnellement bien aimée. Voilà. Alors peut-être je vais faire les choses de manière inversée. Est-ce que justement Vincent Viguier, au regard de votre présentation, votre analyse, est-ce qu'au regard de ces cartes-là également et de ce qui vient d'être dit, vous auriez peut-être des précisions à donner ou en tout cas des commentaires pour aiguiller aussi les collectivités qui sont dans la salle et qui réfléchissent de la même manière que Toulouse, Tunis et Düsseldorf? Merci.
Oui, pas de problème. Alors très rapidement, déjà juste un petit point. Dans ma présentation, j'ai montré les difficultés et les erreurs à ne pas faire avec les jumeaux. Mais par contre, je ne voulais pas du tout dire que c'est une démarche à ne pas suivre. Au contraire, en termes notamment de communication avec la population, de réfléchir aux choses, c'est une démarche qui est très utile. Et voilà, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On m'a demandé de présenter un peu le côté technique des choses, mais voilà, ça reste une démarche vraiment intéressante. Et juste deux petits points. Le premier, c'est par rapport à ce qui, la dernière personne qui a parlé. Donc, je vais juste souligner que il y a le Acclimatera en Nouvelle-Aquitaine. Et au cas où tout le monde ne soit pas au courant, il y a des réseaux qui ont été créés, d'ailleurs, grâce à l'aide d'Acclimatera, mais dans les autres régions françaises. Par exemple, en Occitanie, il y a le RECO. En Île-de-France, il y a le GREC Île-de-France, donc je fais partie du conseil scientifique. Et vraiment, par rapport à ces questions d'impact du réchauffement climatique, c'est des ressources qui peuvent être très utiles. Parce qu'il faut bien voir qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment beaucoup d'inconnus par rapport aux impacts du climat, de ce que ça peut signifier dans la vie de tous les jours, etc. Et que du coup, avoir des chercheurs qui connaissent le territoire et qui travaillent à l'échelle du territoire, c'est très important pour essayer d'avoir des scénarios qui soient qui soient pratiques. Voilà. Et puis voilà ce que je voulais venir.
Merci beaucoup. J'ai demandé peut-être juste à Dylan de remettre en galerie tous les intervenants qui sont en visio. Parce que je vois qu'effectivement, il est 13h et je ne voudrais pas faire en sorte que personne n'ait rien à manger. Mais donc peut-être qu'on voit également Madame Nathalie Calmilly, puis qu'on voit également Zora Medbi, que je voudrais présenter. Mais malheureusement, on manque un peu de temps, parce que je voudrais quand même donner la possibilité à des participants en salle de s'exprimer. Donc peut-être juste, Zora, si vous pouvez dire quel est le sujet de votre thèse que vous venez de soutenir. Parce que très bientôt, on va se retrouver en visio à nouveau pour peut-être des séances encore plus précises, encore plus affinées sur ces questions-là. Et on vous retrouvera, vous, avec beaucoup plus de temps, et je vous m'en excuse par ailleurs. Donc Zora, peut-être dites-nous effectivement votre sujet de thèse.
Merci Constance. Donc moi, je viens de soutenir une thèse en urbanisme et aménagement autour des questions climatiques et comment intégrer les questions de changement climatique dans les politiques urbaines à Tunis. C'est une thèse vraiment interdisciplinaire à l'interface des sciences du climat et des sciences sociales. L'idée, c'était de construire une expertise climatique avec mon labo de Météo France, le CNRM, et voir comment, avec des méthodes de sciences sociales d'enquête et tout, comment il est possible ou pas d'enclencher un processus d'appropriation et de traduction sur le terrain. Donc, parce que l'idée, c'était de tester l'adaptabilité et la générosité de quelques outils développés ici à Toulouse sur le territoire tunisois. Et donc, on est confronté à la question de manque de données que M. Zribi a déjà pointé. Donc, c'est des modèles, les modèles de Météo France sont très gourmands en données. Et à Tunis, on était vraiment confrontés à cette question de pénurie de données. Il fallait construire les données, les collecter, les mettre en forme pour pouvoir alimenter le modèle. Après, on avait construit des cartes climatiques pour diagnostiquer le confort thermique d'été, diurne et nocturne, donc îlot de chaleur urbain et stress thermique. Et à travers cette expertise-là, on a essayé de la traduire pour qu'elle soit vraiment utile pour les acteurs, parce qu'on s'est rendu compte que produire des outils, ça peut être bien pour la recherche, mais si on vise l'action, c'est pas forcément évident pour les acteurs de s'approprier nos propres outils. Donc, on s'est beaucoup intéressé dans ce projet autour de ma thèse à la question de traduction et comment nous, chercheurs, on peut vraiment apporter un accompagnement aux acteurs et ça passe vraiment par la co-construction, pas que par le transfert, parce que transférer, ça reste vraiment une relation un peu verticale entre chercheurs et acteurs. Et l'idée, c'est d'aller plus vers la co-construction et faire participer les acteurs de territoire dès le début, en fait, avec nous dans la réflexion, parce qu'ils ont leur propre expertise territoriale que nous, chercheurs, on n'a pas forcément. Donc, c'est vraiment l'idée de co-construction.
Merci beaucoup, Zora. Je suis obligée de vous couper. Et en tout cas, on a très, très envie de vous retrouver très vite pour qu'on puisse partager tout cela. Et puisque ce que vous dites rejoint évidemment ce qui a été dit avant, la nécessité de travailler en coopération et d'expliquer, de faire comprendre, plutôt que évidemment de devoir calquer. Donc, on est vraiment bien dans cette démarche-là. Donc, peut-être aux participants. Alors, la session s'appelait Découvrir son jumeau climatique. Donc, on en a pu prendre quelques éléments, quelques exemples. Et vous l'avez bien compris, il ne s'agit pas d'une recette toute faite et d'aller trouver justement des solutions qui seraient déjà appliquées, qui seraient les meilleures ailleurs, mais plutôt de réfléchir, d'anticiper aussi, comme l'a dit beaucoup Stéphane Becquet. Je crois que c'est très important de comprendre qu'effectivement, on est dans une trajectoire, ça c'est Vincent Viguier qui l'a dit aussi, dans la mesure où on ne peut pas avoir les solutions idéales, en tout cas aujourd'hui pour demain, mais qu'il faut apprendre à les construire, à les chercher. Alors peut-être... on va quand même prendre deux petites minutes. Est-ce que parmi dans la salle, il y aurait éventuellement une collectivité qui serait très avide de savoir avec qui elle pourrait travailler demain, ou justement dans ce cadre-là de ville jumelle climatique, ou au contraire, ou en complément, peut-être, on va dire ça comme ça, de voir, de s'intéresser justement à ce qui existe au niveau des territoires en termes de rapprochement du milieu de la recherche et du milieu des collectivités. Donc, est-ce qu'il y aurait éventuellement une personne qui aurait une question, quelque chose qui n'était pas clair ou un complément ? Oui, monsieur, présentez-vous, s'il vous plaît.
D'intérêt public, merci. Au sein duquel il n'y a que des collectivités territoriales. Donc, juste pour dire que nous sommes intéressés, alors cette fois-ci, c'est pas une démarche scientifique, c'est une démarche pragmatique, à une écocité résiliente qui est positionnée dans le Sahara et qui a développé un certain nombre de savoirs, de techniques basées sur des savoirs ancestraux. Et ce qui est très, très intéressant, justement, c'est la capacité que ces gens ont à gérer un certain nombre de ressources. Et nous en avons étudié trois principalement, l'eau, l'énergie et les déchets, puisque de toute façon, c'est forcément, je dirais, des thématiques transversales. Et puis, avec eux, on est en train d'aller un tout petit peu plus loin et de réfléchir autour du low-tech. Nous sommes donc basés à Marseille. Nous travaillons avec des partenaires du sud de la Méditerranée. Et on se rend compte finalement que les technologies sont formidables. Il y a beaucoup de choses qui se développent en high-tech, sauf que les technologies high-tech sont assez fréquemment peu accessibles au territoire du sud de la Méditerranée. Accessibles au territoire du nord, mais au territoire du sud, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc on a mis au point ce petit manuel, un petit manuel qui s'appelle « Résilience urbaine et adaptation au changement climatique ». Mais de toute façon, nous intervenons tout à l'heure. Voilà. Mais c'était juste pour essayer de ramener un peu plus de monde. Voilà, donc nous serons en micro-atelier 6. En micro-atelier 6. Pas de problème.
Merci. Oui, donc je disais merci à vous, la Vitem, effectivement, un micro-atelier qui s'annonce très, très intéressant. Alors, est-ce qu'il y aurait une personne ? Oui, et ce sera la seule question, mais rassurez-vous, Stéphane Becquet, Vincent Viguier seront avec nous une partie de la journée, donc vous pourrez évidemment vous adresser à eux. Vous vous présentez ? Alors, on manque un peu de micro.
Oui, donc Céline Papin, adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente de Bordeaux Métropole. Donc nous sommes, nous aussi, également très intéressés par cette démarche de jumeaux climatiques. Effectivement, la ville de Séville aussi nous a souvent été présentée comme un jumeau climatique potentiel, même si, effectivement, sur le volet précipitation, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc on est désireux de travailler davantage sur cette question. Moi, j'ai retenu aussi l'intérêt de mobiliser conjointement collectivités territoriales et monde scientifique et universitaire autour de cette question. Ça me semble particulièrement important et c'est clairement un thème qui peut aussi, on va dire, constituer un fil rouge de notre action internationale. Nous, on mène déjà des actions en ce sens. Par exemple, avec l'École nationale d'architecture et de paysage, nous avons, dans le cadre de notre partenariat, des échanges avec Casablanca autour de modèles paysagers, en fait, effectivement, qui intègrent cette question de l'évolution climatique. Et puis, pour rebondir sur la dernière intervention, puisqu'effectivement, sur l'action de la low-tech, c'est aussi un axe de développement qui nous intéresse particulièrement. Nous avons accueilli le tour de low-tech récemment à Bordeaux. Et effectivement, je pense que c'est une piste clairement à creuser, puisque bien évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes moyens pour faire face à ces enjeux. Et même au-delà de ça, de toute façon, comme on doit aussi répondre à des enjeux de sobriété en termes de ressources et en termes d'énergie, je pense que c'est clairement un axe à creuser. Voilà. En fait, c'était plus une remarque qu'une question, mais en tout cas à creuser. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui appellerait en fait un temps d'échange plus long à l'avenir.
Vous voulez dire un petit, on va donner le mot de la fin à Stéphane Becquet, et ensuite on ira déjeuner ou d'autres activités pour ceux qui le souhaitent. Si tout le monde est d'accord, je propose de donner le mot de la fin à Stéphane Becquet. Allez-y, je vous en prie.
Je ne sais pas si ça sera le mot de la fin, mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut travailler en mode projet. Ça, c'est clair. À multi-partenaires, on l'a dit, recherche, entreprise. Il faut faire sauter les chapelles pour travailler ensemble. Et pour ça, peut-être que l'État ou d'autres bailleurs pourraient mettre des fonds pour aller les chercher. Tout à l'heure, j'ai parlé dans les exemples concrets de Live Green Earth, où on était allé chercher 4 millions d'euros à travers ce projet européen. Je pense qu'il y a d'autres fonds à mobiliser pour travailler la coopération internationale et la coopération décentralisée avec nos jumeaux climatiques. Donc là, c'est peut-être aussi je fais un appel à CUF qui peut voir directement avec l'État pour mobiliser des fonds, des appels franco, je ne sais pas quoi, mais pour faire ce type de projet. Parce qu'il n'y a que le mode projet qui permettra de faire des choses concrètes.
Alors du coup, c'est moi qui aurai le mot de la fin. Effectivement, vous avez parlé de fonds et il y avait la session financement animée par mon collègue Lucas simultanément. Mais là aussi, il y a pas mal de pistes à creuser. Donc on a bien l'intention, comme on le fait toujours, de grâce d'ailleurs aux élus de Cités Unies France, d'interroger, de discuter avec l'État. Le secrétaire d'État l'a dit ce matin à l'ouverture. Justement pour voir quels sont les meilleurs mécanismes possibles pour travailler ensemble. Et donc pour ça, il faut de l'argent. Alors, nous vous proposons, de manière un peu autoritaire, j'en suis encore une fois désolée, mais on ne fait que commencer, on va dire, ou poursuivre. Je vous propose d'aller rapidement, par contre, déjeuner. C'est un repas à table, assis, mais comme toujours, il y a toujours plus de monde que prévu. Donc, ne tardez pas, mais bon, ne tombez pas quand même dans les escaliers. Prenez soin de vous, surtout, et puis on est avec vous toute la journée. N'hésitez pas à venir sur le stand de Cités Unies France ou à participer aux autres conférences. Très, très, très bon appétit à toutes et tous. Désolée pour le retard et à très vite en salle. Merci. Merci à tous. Au revoir.